Ciel FM. Vous écoutez Bonjour Grand Portage avec Kevin Beaulé.
À 8h29, très content ce matin de jaser avec ce gars-là que je connais depuis ma plus tendre enfance. Et il y a un cheminement, il y a un parcours qui est très intéressant. Vous allez l'apprendre. C'est un gars qui est enseignant en philosophie au cégep de Lévis-Lauzon depuis au-delà de 10 ans. Et c'est un gars également qui est chanteur au sein d'un groupe métal, mais pas n'importe quel groupe métal. Le groupe s'appelle Get the Shot. Et c'est un groupe qui existe depuis 2009, qui a fait des tournées partout à travers le monde, qui a rempli des salles. Et je trouve ça bien de pouvoir parler de ce type de musique-là qui divise. Il y a beaucoup de préjugés sur la musique métal. Et très content ce matin de jaser avec Jean-Philippe Lagacé qui est en ligne. Salut Jean-Philippe.
Salut Kevin, un gros merci pour l'invitation.
Ben oui, puis je pense qu'on va se permettre de se tutoyer parce qu'on se connaît depuis des années, ça te va?
Absolument, c'est une amitié de longue date.
Exactement. Content de te parler parce que, bon, t'es connu à Rivière-du-Loup, t'as habité ici pendant ton enfance, maintenant tu résides dans la grande région de Québec, t'es enseignant, comme je l'ai mentionné, en philosophie au cégep de Lévis-Lauzon, mais tu es également le leader d'un groupe métal qui fait le tour du monde, qui remplit des salles. Et pourtant, tu sais, il y a encore des préjugés négatifs sur ce type de musique-là.
Oui, tout à fait. Ces préjugés-là perdurent depuis les années 80, voire même la fin des années 70. Le métal s'est toujours inscrit comme une espèce de musique qui était en porte-à-faux avec l'industrie culturelle dominante, mainstream. Donc, je pense que de prime abord, c'est normal qu'il y ait toujours des préjugés à cet égard-là, parce que c'est une musique qui n'a jamais non plus voulu cadrer justement dans les limites de la normalité non plus. Donc, en même temps, je pense pas que le métal s'en plaigne qu'il y a des préjugés. Cependant, il y a quelque chose de quand même intéressant quand même d'un point de vue humain et philosophique à essayer justement de briser les stéréotypes. Alors, c'est pas parce qu'on est professeur que nécessairement on peut pas faire du métal. Puis de ce point de vue-là, je trouve que ma position est intéressante.
Ouais, puis je trouve le parallèle intéressant. Donc, dans le jour, tu es un professeur de philo au cégep. Le soir, tu remplis des salles grâce à ton groupe Get the Shot. Est-ce que, justement, il y a des gens qui sont surpris de savoir ce style de vie-là que tu as depuis plusieurs années?
Ben, c'est ça, c'est un style de vie qui est pour le moins atypique. Là, il n'y a pas beaucoup de profs de philo qui font du métal, là, je te dirais, au Québec. Mais c'est intéressant parce que dans le fond, moi, j'ai toujours vu l'enseignement puis la musique extrême comme étant les deux versants d'une même médaille. C'est-à-dire que moi, quelque part, ce qui m'a amené à faire de la philosophie, c'est parce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, j'écoutais des groupes de métal comme Slayer, Anthrax, qui avaient des textes relativement engagés, donc qui traitaient quand même de sujets politiques, sociaux, qui étaient quand même assez féconds. Puis ça a piqué ma curiosité intellectuelle, puis après ça, ben moi, j'ai adoré mon cégep. C'est juste d'ailleurs avec lequel que j'ai eu le privilège de faire en ta compagnie, mon cher.
Ben oui, ben oui.
Puis, moi, j'ai adoré mon cégep, puis le cégep m'a comme donné un peu les outils intellectuels pour essayer de comprendre, justement, ces thématiques-là que ces bandes de métal-là abordaient, justement, dans leurs chansons. Fait que, moi, j'ai toujours vu ça comme étant, finalement, le même défi, mais simplement mené sur des fronts différents. C'est-à-dire que la musique permet de piquer la curiosité intellectuelle des gens, puis l'enseignement, ben, ça permet d'avoir des outils intellectuels puis théoriques pour y répondre à ces enjeux-là.
Est-ce que les gens que tu fréquentes, les élèves ou les étudiants que tu apprends à connaître à chaque année sont surpris de ce style de vie-là?
Ben, je pense que ça frappe, puis en même temps, j'ai envie de dire que c'est une bonne chose parce que ça facilite le lien de confiance avec les étudiants, parce que c'est comme un peu si les étudiants voyaient que leur professeur de philosophie avait une vie par-delà les murs du cégep. Puis ça leur donne l'impression qu'ils vivent une réalité qui est plus près de la leur aussi. Donc, cette espèce de lifestyle un petit peu distinct-là m'a toujours permis d'entrer en contact plus facilement justement avec les autres, autant mes étudiants qu'autant justement les spectateurs justement qui viennent voir nos concerts, parce que dans le fond, il y a quelque chose justement d'un peu atypique à voir un chanteur de Ben Hardcore, ouais, être professeur de philosophie. Donc, même dans le milieu métal, je m'en fais beaucoup parler. Là. Fait que je me dis souvent que quand je suis dans une salle de classe, je suis une espèce de punk qui enseigne, alors que quand je suis sur un stage, ben, je suis comme un philosophe qui chante du hardcore.
Parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai toujours eu l'impression qui est probablement faussée, que ça allait peut-être être plus difficile pour toi de te faire accepter socialement en raison de ce mode de vie-là. Mais tu dis au contraire que c'est une porte d'entrée qui est plutôt intéressante.
Oui, absolument, absolument. Mais je pense que souvent, c'est qu'on on sous-estime la marginalité. C'est-à-dire que je pense que les gens, autant que ce soit les étudiants, les spectateurs ou les êtres humains en général, recherchent quelque chose qui est coloré aussi. Je pense que l'unicité, ça a une certaine valeur sociale, puis après ça, ça permet aussi de vendre la personne que t'es, non seulement d'un point de vue marketing, mais je veux dire d'un point de vue strictement humain, de mettre en valeur ce que t'es. Puis c'est pour ça que c'est cette espèce de vie un peu schizophrénique que je partage entre l'enseignement puis le métal, moi, ça m'a permis au contraire d'entrer vraiment plus facilement en contact, en communion, puis dans un lien de confiance justement avec autrui. Puis moi, je pense que la richesse, justement, dans la différence, dans ce qui cadre pas dans les sentiers battus de la normalité.
Ouais.
Puis je te dirais qu'après 12 ans d'enseignement, puis 13 ans avec Get the Shot, je considère que c'est un parcours qui m'a permis justement d'en connaître beaucoup plus sur le monde, sur les gens, puis qui en joue encore à ma faveur aujourd'hui.
Justement, parlons-en de ce parcours avec ton groupe. C'est 13 ans, c'est 900 spectacles partout à travers le monde, Amérique du Nord, Europe, Royaume-Uni. Vous remplissez des salles. Écoute, j'ai vu des images de vos spectacles où, je sais pas les plus grosses salles que vous avez été en mesure de remplir, mais il y a certainement plusieurs centaines, voire quelques milliers de personnes dans ces salles-là. Est-ce que, à quel point on s'attendait peut-être pas, lors de la naissance du groupe en 2009, de connaître un tel cheminement?
Bien, c'est sûr qu'on s'y attend jamais, d'autant que je te dirais que les groupes canadiens, français, que ce soit dans le mainstream ou que ce soit dans la musique alternative, ils ont beaucoup plus de difficultés qu'un groupe, par exemple, américain à se faire voir à l'échelle internationale. À talent égal, le groupe canadien-français, québécois, aura à travailler 10 fois plus que le groupe américain. Ça, c'est une réalité terrain. Donc, je vous dirais à ceux qui font du métal, qui font de la musique alternative ou de la musique en général, puis qui veulent justement voir du monde, percer à l'international, ça exige une certaine témérité, puis une, comme on dit en bon français, une bonne tête de cochon aussi.
Ouais.
Donc, faut savoir être capable justement de travailler très fort sans nécessairement prendre quoi que ce soit en retour. Pour notre part, on a été super chanceux parce que on a fait beaucoup de tournées DIY, c'est-à-dire dans le jargon, ça veut dire do it yourself. C'est des tournées qu'on a nous-mêmes bookées de manière indépendante dans nos débuts. On l'a fait à l'international, fait qu'évidemment, c'est des plus petits concerts. Puis tu files en aiguille, tu rencontres des gens, tu te constitues un bon fanbase, un bon public qui vient voir tes concerts. Puis en 2016, il y a une grosse agence de booking en Europe qui nous a signé, qui s'appelle Kingstar. Puis à partir de ce moment-là, on a commencé justement à être bookés sur des plus grosses tournées. Puis là, le fanbase a grossi. Puis ça nous a amené justement dans des salles incroyables. Ça nous a amené un public quand même gigantissime. Puis ça nous a permis de fouler des plus grands stages de la planète. Là, justement, je pense lorsqu'on a joué, par exemple, au Hellfest, qui est le plus gros festival de métal en France. On a joué sur la scène Warzone devant plus de 15 000 personnes.
Wow.
C'est impressionnant. Il y a quelque chose de très impressionnant là-dedans. On revient aussi d'une tournée de lancement en Europe de 2 semaines. Puis les salles étaient généralement entre 1 000 et 2 500 personnes à chaque soir. Là. Donc c'est quasiment des très gros impériales à tous les soirs. Fait que c'est quelque chose de grisant. Puis on le voit comme un privilège aussi parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de le faire. Donc on se sent très choyé d'avoir l'opportunité de le faire.
Est-ce qu'il y a des endroits, Jean-Philippe, à travers le monde où la musique métal a la cote comparativement à d'autres endroits?
C'est sûr que l'Europe, en général, là, tous les pays de l'Union européenne, là, c'est un marché immense pour la musique métal. Donc, comme je disais, la plupart des gros festivals de métal sont en Europe, là, qu'on pense au Hellfest, qu'on pense au Wacken Open Air qu'on va faire justement au mois de juin, qui est le plus gros au monde puis qui est situé en Allemagne. Tous ces gros festivals-là sont généralement sur le vieux continent et c'est vraiment, vraiment là que ça se passe. Puis même que les groupes américains maintenant tournent à peu près aux États-Unis, ils s'en vont tous en Europe, justement.
Ah oui.
Donc, c'est vraiment là que ça se passe sur la planète. Il y a d'autres beaux marchés aussi aux États-Unis, mais tu vois, l'Amérique du Nord est rendu un marché plus complexe, plus difficile comparativement à l'Europe, parce que il y a étonnamment un bassin, finalement, de fans de métal qui est moins important qu'en Europe. Mais ce qui change beaucoup là-dedans, c'est que les conditions de tournée en Europe sont définitivement meilleur lorsqu'on va là-bas qu'en Amérique du Nord. Par exemple, en Europe, le simple fait d'être nourri puis logé lorsque tu vas faire un concert à quelque part, c'est quelque chose qui ancre dans les conditions de base pour n'importe quel groupe, que tu sois un petit groupe ou que tu sois un gros groupe. Donc, c'est pas mal plus intéressant justement pour un band d'aller sur le vieux continent dans ces conditions-là.
Donc, c'est impossible de vivre de cette musique-là uniquement?
Oui, c'est tout à fait possible de le faire. La seule différence, c'est qu'il faut que tu sois prêt à être parti 10 mois par année. donc de littéralement vivre sur la route. C'est quelque chose que nous, Get the Shot, on a décidé de ne pas faire parce que on n'avait pas envie justement de faire ce parcours-là, puis au bout de 3 ans, d'avoir l'impression justement de plus avoir d'énergie, de plus être capable justement d'en donner assez. Donc, on a plutôt préféré s'inscrire dans la durée, dans la longévité, en trouvant une espèce d'équilibre entre une vie, on va dire, professionnelle, plus normale ici à Québec, puis la vie de tournée, ce qui fait en sorte que généralement, je te dirais, on part peut-être équivalent de quoi, mettons, 3-4 mois par année sur la route, disséminé sur une année, puis le reste du temps, ben, on est ici. Fait qu'on partage notre vie entre notre vie à Québec, puis la vie sur la route.
Dernière question, Jean-Philippe, est-ce que tu as l'intention de mener ce train de vie-là encore longtemps? Parce que je sais que de faire partie de ce genre de groupe-là, c'est exigeant physiquement, parce que les spectacles, justement, pour les gens qui veulent avoir peut-être un exemple, je vous invite à aller voir sur YouTube vos vidéos qui sont vues d'ailleurs des centaines de milliers de fois, même dans certains cas, 1 million de fois, mais parce que c'est exigeant physiquement. Est-ce que tu as l'intention de poursuivre ce mode de vie-là encore longtemps?
Ben oui, tout à fait. Puis, je dis toujours, dans le fond, quand on me pose la question sur qu'est-ce qui t'amène à écrire des chansons, ben je me suis toujours dit, tant et aussi longtemps que je ne serai pas pacifié, je vais faire du métal, je vais faire du hardcore. Pour le moment, c'est encore ça. Physiquement, ben évidemment qu'on prend les moyens justement pour être capable d'en faire encore pendant longtemps. C'est pour ça qu'on s'entraîne fort à longueur de semaine dans un gym pour arriver après ça sur un stage frais et dispo pour pouvoir escalader des barricades, sauter sur des têtes, ben faire travailler la sécurité un peu.
Très intéressant, Jean-Philippe. Ça a été un plaisir de jaser, mon ami, puis on se tient au courant pour la suite.
Ça a été un plaisir partagé.
Salut, bye-bye. Donc, Jean-Philippe Lagacé, un gars de Rivière-du-Loup. Qui réside maintenant dans la grande région de Québec. Mais moi, je trouve ça fascinant, son histoire. T'sais, on pourrait pratiquement dire prof de philo au cégep le jour, chanteur métal le soir.